Seigneur Jésus, merci pour cette bonne soirée, pour ce message qui va bénir et encourager chaque chrétien qui vit maintenant sur cette terre et qui peut s'inspirer de ce que toi tu as fait, de ce que les apôtres ont fait par la suite. Je te prie, mon Dieu, que tu nous inspires et que nous soyons vraiment renouvelés et que, après cette prédication, chacun, chacune puisse aller de l'avant et s'occuper de ce qui te tient le plus à cœur, c'est-à-dire l'évangélisation. Merci Jésus. Alors, bonsoir à tous. Je voudrais vous dire ce soir quelques mots, quelques pensées. C'est peut-être un peu décousu, mais je voudrais vous dire des choses qui sont... Des fois, on réalise pas comment ça s'est passé, comment la vie de Jésus dans les croyants, dans les chrétiens, dans les disciples, comment ça a commencé. En fait, ça a commencé le jour où Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Les jours qui ont suivi cette résurrection étaient parmi les plus dramatiques, on peut dire, de l'histoire de Jérusalem. Alors, il y avait des rumeurs qui se multipliaient, on racontait que cet homme, Jésus, exécuté comme un criminel, était ressuscité. Ça faisait un choc terrible, la population, tout le monde en parlait. La situation s'aggravait en fait de jour en jour pour les disciples. D'abord, il y a une femme qui a raconté qu'elle avait vu Jésus vivant. On trouve ça dans Matthieu 28, 5, 8, je crois. Ensuite, les disciples qui affirmaient l'avoir touché. Et puis avoir même mangé avec lui. Et puis à la Pentecôte, les disciples reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Alors il y a une foule survoltée qui avait entendu ces Galiléens qui étaient des rudes gaillards, qui se mettaient à parler toutes les langues des nations du monde connues à l'époque, et ça faisait un effet terrible. Et le commandant de la garnison qui était là commençait à s'inquiéter de la quantité de rapports qui pouvaient lui parvenir sans cesse. Il y avait tout le temps des rapports au sujet de ce qui se passait. Et de mes propres yeux, j'ai vu cet homme crucifié. Il disait, c'est pas possible. Comment il pouvait classer un rapport comme ça? Je l'ai vu saigner, je l'ai vu. Je connais bien le soldat qui a vérifié sa mort. C'est lui qui a percé le côté de cet homme avec sa lance. Cet homme est mort. C'est obligé qu'il soit mort. Il est mort. Et tout à coup, il y a un soldat qui fait irruption là. Et mon commandant, je j'aime pas l'admettre, mais j'ai peur qu'il y ait quelque chose là-dessous. Ah bon, l'officier l'interrompt d'un ton un petit peu énervé, comme ça, il dit, quelque chose, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe encore? Et puis, explique-toi, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Alors l'homme, il continue, mais Jésus doit être revenu à la vie. C'est aberrant, je le sais, mais il se passe tellement de choses ces jours-ci que c'est bizarre. Peut-être que je devrais demander une permission, puis rentrer chez moi à Rome, parce que ça me dépasse. Une permission? Alors là, le commandant était vraiment en colère. Cette histoire commençait à échapper à tout contrôle. Peut-être que avant la nuit, j'aurais besoin de mobiliser toute la garnison de Jérusalem, et toi, tu demandes une permission. Les grands prêtres, le Sanhédrin sont en session aujourd'hui pour essayer de définir leur position vis-à-vis de toute cette perturbation. Et toi, tu dis que tu veux partir en permission. Tu sais pas que si on arrive à prouver que Jésus est de nouveau vivant, tout le pays va le suivre. Hey, réveille-toi un peu. Tu te rends compte? Mais non, je crois que tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte que ça justifierait toutes les prétentions qu'il avait de son vivant? Non. Comprends-tu que nous faisons face maintenant à une véritable guerre de religion? Ben oui, parce que pour les Romains, le seul dieu, c'était César. Et puis, il y avait les Juifs, les fanatiques pharisiens, et qui, n'est-ce pas, avait encore une autre religion, et puis voilà, ce Jésus qui soi-disant est ressuscité, que ça mettait une perturbation terrible. Ce sont les deux hommes qui ont provoqué cet attroupement l'autre jour pendant la fête de la Pentecôte. Quand tant de gens les ont entendus parler plusieurs langues, et puis ils ont vu un peu de feu sur leur tête, enfin, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Commence à demander le commandant qui n'était pas tout à fait Là, juste après, il y avait un invalide à la porte du temple et ne me raconte pas qu'ils l'ont guéri. Ben oui, justement, ils l'ont guéri. Si, mon commandant, je les ai vus. Je l'ai vu se lever. Ce type, ça fait des années qu'il était là, à la porte du temple. Je l'ai vu se lever, marcher, courir, sauter. Il était exactement c'est exactement comme quand Jésus était vivant et qu'il guérissait les malades. Jésus fait l'officier. Il n'en pouvait plus. Je peux pas me retourner sans entendre parler de ce Jésus. C'était, comme disent les gitans, une grande énervation dans tous les milieux. Ces deux hommes, Pierre et Jean, est-ce qu'ils ont dit quelque chose? Ben, celui qu'on appelle Pierre, il a expliqué que c'était pas lui qui avait fait cette guérison, mais que c'était par la puissance de Jésus. Jésus, encore ce Jésus! Le commandant, il s'interpose et il dit, mais qu'est-ce qu'il a dit de plus au sujet de Jésus? Alors l'autre répond, Pierre a demandé au peuple d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de ceci? Ou pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous comme si nous avions fait marcher cet homme par notre propre puissance ou par notre piété? Le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié Jésus. Vous avez renié le saint et le juste et vous l'avez mis à mort. Vous avez mis à mort le prince de la vie, lequel Dieu a ressuscité d'entre les morts, ce dont nous sommes témoins. Et par la foi en son nom, eh ben son nom a raffermi cet homme que vous voyez et que vous connaissez. Et la foi qui est par lui donnée à quiconque veut bien l'écouter, eh bien. Repentez-vous! Repentez-vous donc! Convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Le commandant, là, il lève les yeux, il n'en peut plus. Il est vraiment perturbé. Il faut à tout prix qu'il disperse cette populace. C'est son devoir de Romain, de soldat et tout. Les rumeurs pullulent. Il est ressuscité, il est vivant, son pouvoir n'a pas changé, il est avec ses disciples, il guérit de nouveau les gens au travers de ses disciples. Et les soldats, les soldats, il n'y en a aucun qui a vu Jésus, mais ils commencent tous à avoir des sueurs froides à la pensée de le voir, un peu comme un assassin, n'est-ce pas, qui rencontre sa victime. Alors le commandant décide d'agir en faisant disperser donc tout ce rassemblement, toute cette populace. C'est à ce moment-là que les sacrificateurs surviennent. Et ils arrivent du temple, et puis les Sadducéens sont mécontents de ce que les disciples ont enseigné au peuple, au sujet de Jésus, de la résurrection des morts, parce que bon, ils y croient pas trop. Alors, ces Sadducéens ont mis la main sur Pierre et Jean, ils les ont jetés en prison jusqu'au lendemain, mais voilà, ils sont quand même très inquiets. Beaucoup de ceux qui, la Bible nous dit que beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre s'éleva environ à 5 000. 5 000. Vous voyez, quand quelqu'un prêche avec la puissance pour guérir les malades, waouh! Alors le lendemain, Pierre comparaît devant le tribunal et puis alors le grand prêtre lui demande, par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Donc ce miracle de cet homme qui était là-bas, assis à la porte du temple depuis des années, paralysé. Alors Pierre répond fermement, il sait très bien, il dit, sachez-le tous, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alors, bon, il voyait l'assurance de Pierre, il voyait l'assurance de Jean. Et ils savent très bien que c'est pas des professionnels, que c'est pas des gens instruits, mais tout ce tribunal reconnaît que ces deux hommes étaient de la bande à Jésus. Et comme ils voyaient là, à côté d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils savaient pas trop quoi répliquer. Ils étaient embêtés. Ça dérange, hein, quand on prêche l'évangile et puis que l'évangile est prouvé par des signes, des prodiges et des miracles. Mais c'est ce que vous avez à faire. C'est ce que j'ai à faire. C'est ce que je fais depuis 50 ans. C'est ce que vous devez faire vous aussi. Dire Jésus vous aime, dire je prierai pour vous, c'est bien gentil, mais il faut au nom du Seigneur Jésus-Christ faire les choses qui étaient faites au début. Vous voyez, en ces jours-là, une seule chose comptait, c'était démontrer que Jésus était ressuscité et il fallait en donner des preuves tangibles. Mais c'est toujours pareil. Et il y en a beaucoup qui s'obstinent encore aujourd'hui dans une opposition farouche et qui nient toujours sa résurrection. Encore aujourd'hui, à l'époque c'était pareil. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres, nous dit la Bible. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes, femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines, à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et ils étaient tous guéris. Vous trouvez ça dans Actes 5, 12, 16. Alors, à chaque nouveau miracle, les disciples déclaraient que c'était une preuve de plus que Jésus était ressuscité selon les Écritures saintes, c'est-à-dire selon l'Ancien Testament, qui disait qu'il reviendrait d'entre les morts. Jésus était ressuscité, mais le peuple demandait des preuves avant de croire. Les miracles qui étaient opérés, confirmés en ce temps-là, et puis c'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui. Si Jésus-Christ est mort, il ne peut faire aucun miracle. Mais s'il est vivant, il peut faire des miracles aujourd'hui exactement comme ce qu'il faisait avant d'être crucifié. Vous voyez, des multitudes, nous dit la Bible, des multitudes furent convaincues et se tournèrent vers le Seigneur. On trouve ça dans tous les actes des apôtres. Alors c'est comme ça que le christianisme est né et s'est propagé. Ceux et celles qui proclamaient le message savaient que Jésus-Christ était mort, mais que si Christ n'était que mort, ça n'attirerait aucun disciple. Pour que les gens croient en lui, il fallait les convaincre qu'il était ressuscité et vivant. Et le seul moyen de les convaincre, c'était qu'il fasse les mêmes œuvres qu'il faisait avant sa mort. On trouve ça dans Actes 3, 6, 14 et 16. Nous croyons la parole de Dieu. Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours le même. Ce qu'il faisait autrefois, il veut le faire aujourd'hui, mais nous, est-ce qu'on est prêt à se mouiller, à faire les choses que les apôtres faisaient? Ça leur a attiré des tas d'ennuis aux apôtres, ça va vous attirer aussi des ennuis. Mais bon, c'est ce que Dieu attend de nous. L'Église primitive est donc née au milieu des miracles. Pour que des millions de nos contemporains se mettent à croire en Jésus-Christ, il faut leur démontrer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, pas seulement leur montrer le verset. Hein? Vous connaissez tous le verset, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, Hébreux 13, 8. Ben, il faut le démontrer, il faut le prouver. Et ça, c'est à vous, chrétiens, à moi, à nous qui sommes croyants, de le démontrer. Quand on prie, c'est pas pour faire du bruit. Quand on prie, c'est pas pour passer le temps. Quand on prie, ça fait bouger le bras de Dieu si on prie avec foi. Christ vit aujourd'hui et il n'a pas changé. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Si tu peux, tout est possible à celui ou à celle qui croit. Ça, c'est ce que Jésus dit dans Marc chapitre 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ lui-même n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à prêcher et vous n'avez rien à croire. C'est du blabla, c'est du baratin, d'intellectuel, un peu malade du cerveau, si Christ n'est pas ressuscité. Vous n'avez rien à prêcher, je n'ai rien à prêcher et vous n'avez donc rien à croire. De plus, il se trouve que nous sommes des faux témoins de Dieu puisque nous avons certifié, et j'ai certifié, que Jésus-Christ est ressuscité. Et si c'est faux, je suis un faux prophète. Je suis un homme qui porte une fausse parole.
Vous voyez? Et si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre foi, c'est une illusion. Et nous sommes tous encore en plein dans nos péchés. Il ne nous a pas pardonné nos péchés. Il est mort, point barre, point final, terminé. Non, il est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité. Et si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre foi est une illusion, nous sommes dans nos péchés, et il en résulte aussi que ceux et celles qui sont morts en croyant en Jésus-Christ, ils sont tous perdus, et nous sommes les plus à plaindre de tous les gens de la terre. Vous voyez? Mais en réalité, Jésus-Christ est revenu d'entre les morts, gloire à Dieu. Il a donné ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 15, 14 à 20. Il est écrit, si ta bouche, si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus-Christ est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est par le cœur, c'est par le cœur qu'on croit. Et Dieu rend juste celui qui croit. Et c'est par la bouche qu'on affirme, et Dieu sauve ceux qui font comme ça. Est-ce que j'ai bien expliqué ça? C'est avec le cœur que l'on croit, et Dieu dit qu'il va rendre juste tous ceux qui croient. Si tu crois, tu es rendu juste. Tes péchés sont effacés, tu es rendu juste à ses yeux, tu ne passeras pas en jugement. Alors si tu crois, c'est bien. Si tu affirmes de la bouche maintenant ce que tu crois, Jésus dit, tu es sauvé. L'Écriture déclare, quiconque croit en Christ ne sera pas déçu. Ainsi, il n'y a pas de différence entre les juifs et les non-juifs. Tout ça, c'est des... Nous avons tous le même Seigneur qui accorde ses biens à tous ceux qui font appel à Jésus. En effet, il est dit, quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Alors ce soir, je voudrais que tu fasses quelque chose. Ce soir, là où tu es, maintenant, en ce moment, je sais pas, c'est peut-être le matin, l'après-midi, j'en sais rien, mais là où tu es maintenant, je veux que tu mettes ta main sur ton cœur. Pose ta main sur ton cœur et je vais prier pour toi. Père, je te demande de bénir cette personne qui a mis sa main sur son cœur. Elle a cru que ce que je disais est vrai. Je te demande de pardonner tous ses péchés, d'effacer toutes ses fautes, de le rendre pur, de rendre cette personne pure comme si elle n'avait jamais péché. Et je te demande de la remplir du Saint-Esprit et qu'elle puisse faire les œuvres que tu as dit que chaque croyant pourrait faire, afin de prouver que tu es le Christ ressuscité et non pas simplement une religion de blablabla. Père, je te le demande de tout mon cœur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, ce soir, j'ai pas été très long, mais je crois que c'est très bon. Et on a tous besoin d'entendre cela. Faites écouter cela à vos amis. Partagez ce message avec vos amis. Inscrivez-vous sur la newsletter sur révélationbible.fr. Inscrivez-vous. Donnez des commentaires. Envoyez vos requêtes de prière. Nous ne prions pas dans le vide. Nous prions parce que nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il peut faire quelque chose pour vous. Mais bougez-vous. Faites quelque chose. Je crois que vous allez le faire. Allez, que Dieu vous garde. À bientôt. Au revoir.